Le thème global des deux lectures aujourd'hui, les Actes des Apôtres et l'Évangile, pourrait être la purification, la simplification. Purifier au sens de enlever ce qui n'est pas ajusté, réduit l'efficacité, ce qui dilue la vérité du message évangélique. Par exemple, on pourrait peut-être prendre ça comme thème général. Et alors d'abord, la question qui se pose dans les Actes des Apôtres, c'est que certains trouvent que les coutumes qui viennent de Moïse, eh bien, il faut les conserver. Donc, ce qui est de l'ordre de la loi, encore que ça vient de Moïse, ça, il n'est pas dit les coutumes qui viennent de la loi. Alors on dit que Moïse a donné la loi, néanmoins est-ce que Moïse a rajouté des choses ou pas, on ne sait pas très bien. Donc en tout cas, c'est ce qui vient d'un homme, d'après ce qui est écrit, hein, en disant, voilà, si vous ne prenez pas ça, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc en fait, le salut ne vient pas uniquement en Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de sa croix, de sa rédemption, de sa résurrection, de la rédemption qu'il a obtenue pour nous, de sa résurrection, de son ascension. Mais il y a aussi des critères qui font que si on n'est pas dans les clous, on ne sera pas sauvé. Bon, je glose évidemment, hein. Ça discute fort. Et alors, on a toujours cette formule impersonnelle. On décida que Paul et Barnabé et quelques autres frères iraient à Jérusalem pour en causer avec les apôtres et les anciens. Donc, c'est intéressant de voir comme il n'y a pas de drame que ça ait chauffé. Par contre, ça a suffisamment chauffé pour se dire, bon, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. On va aller voir ce qu'en disent ceux qui ont été auprès de Jésus dès le commencement, qui sont dépositaires de son enseignement, qui ont une, si je puis dire, une porosité, une perméabilité au Saint-Esprit particulière, qui ont reçu une responsabilité. Donc ils montent. Ils vont à Jérusalem. Et alors on ne perd pas de temps, hein, parce que pendant qu'on va à Jérusalem, eh bien, on raconte la conversion des nations. Vous voyez, c'est très beau de voir qu'ils ne sont pas arrêtés en disant, voilà, vous savez, on a un truc là qui nous ennuie, on ne sait pas trop quoi faire. Non, non, on va à Jérusalem demander la réponse. Donc, on ne s'attarde pas. Vous voyez, là, c'est un peu un... Moi, j'y vois un peu une méthode où on va demander à l'autorité, quoi. On va pas demander aux uns aux autres. Ah ouais, et toi, t'en penses quoi? Ouais, on pourrait peut-être, et si jamais. C'est très très moderne comme méthode, vous savez, de s'adresser à des gens qui n'ont aucune compétence et aucune autorité. Pourquoi, finalement? Parce qu'on n'a plus du tout, très très peu aujourd'hui, le sens de la vérité révélée. La vérité, c'est... D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens... Oui, c'est ta vérité, une espèce de crétinerie. Là. Non, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Par contre, parmi les choses qui sont vraies, il y a des choses que j'accepte, que je peux entendre et que je ne peux pas entendre. Le reste, ce n'est pas ma vérité. Si j'aime les fraises, ce n'est pas ma vérité, c'est mes goûts, vous voyez. Donc, voilà, ça peut être ta pensée, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que eux, ils ne perdent pas de temps, ils racontent les merveilles que Dieu fait. Vous voyez, c'est quand même ça qui les soutient. C'est au deuxième plan la question qui est posée. La première chose importante, c'est d'annoncer la parole. Donc, ils arrivent là-bas, et puis il y a encore des pharisiens qui en remettent une louche. C'est intéressant de dire que ce sont des pharisiens parmi des pharisiens. Ce sont des légistes, ce sont des gens qui connaissent la loi, et qui probablement n'ont pas encore été tout à fait délivrés de cette idée qu'il faut être pur pour bénéficier du salut. Il faut avoir suivi les traditions de Moïse pour bénéficier du salut. Autrement dit, le salut n'est pour eux finalement annoncé qu'aux Juifs, c'est-à-dire ceux qui ont dans leur chair la marque de l'Alliance. Donc au fond, il n'y a pas tellement de nouvelle alliance, il y a juste un accomplissement. Alors on peut entendre ça de la part de Juifs, voyez. Est-ce qu'un Juif, quand il devient, un Juif, un Hébreu, lorsqu'il devient chrétien, est-ce qu'il se convertit ou est-ce qu'il accomplit ce qui est écrit dans les Écritures? Bien sûr, il accomplit. Est-ce qu'on peut parler d'une conversion? Je ne sais pas, personnellement, au sens classique du terme, oui, d'accord. Mais en fait, il aboutit à ce qui, à ce à quoi les Écritures conduisent. Donc, c'est plus un aboutissement, me semble-t-il. En revanche, eux, ils ne sont pas contents que les païens aient pas à passer par la case départ. Voilà. Et donc, ça va être le sens de toute la discussion. Donc, la discussion, ça va être de savoir si le salut est annoncé à tout le monde, ou bien qu'à ceux qui sont passés par le chemin qui mène qui est par le chemin des Hébreux, quoi, tout simplement. Donc, ils vont discuter là-dessus. Donc, on essaie de clarifier les choses. Alors, Jésus, dans l'Évangile, lui aussi, il clarifie les choses. Et il va prendre l'image de la vigne, du vigneron. Et finalement, il va nous dire, je vais vous dire quelque chose d'assez clair, c'est qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça, c'est tout de même très très important de prendre bien 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 conscience qu'en dehors de Jésus, on ne peut pas. C'est assez difficile à entendre pour certains convertis ou certaines personnes en phase de conversion. Je me souviens d'une personne qui un jour m'avait dit « Oui, moi je te prouverai que... » Je lui dis « Oui, tu prouveras ce que tu veux, tu ne peux pas. » Voilà. Mais il y a cette idée qu'on peut réussir sans Dieu. Alors, on peut faire très très beaucoup de choses sans Dieu, mais pas aboutir au Père. C'est juste impossible. Or, aboutir au Père, c'est la libération, c'est la résurrection, c'est la délivrance, c'est la liberté absolue, c'est la filiation divine. Maintenant, on peut faire la cuisine sans le bon Dieu, j'imagine. Oui. Donc, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit que le Père enlève ce qui ne porte pas de fruits. Alors, pour une vigne, c'est assez cohérent. Hein. S'il y a des vignerons parmi vous, vous en savez long là-dessus. Même, je pense, sans être vigneron, on sait qu'il y a des choses à couper qui ne sont pas utiles quand on éclaircit des pommiers, il y a des choses à enlever. Si on n'enlève pas des fruits, ben on n'aura que des toutes petites pommes. Si parmi tous les bourgeons qu'on a, enfin pas les bourgeons, mais les débuts de, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Bon, si on n'en enlève pas quelques-unes, des toutes petites pommes prêtes à grossir, ben on n'aura que des petites pommes. Il faut en enlever, je ne sais pas, 3 sur 5 peut-être. C'est pareil pour les poiriers, c'est pareil pour ces fruits. Pour que la puissance de l'arbre se concentre dans quelques fruits qui seront plus beaux et qui seront consommables et qui arriveront à terme. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on ne peut pas dire, on va se faire jeter dehors. Ensuite, le sarment, il doit porter du fruit. Donc, s'il ne porte pas de fruits, c'est qu'il est malade et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ensuite, peut-être, on pourra greffer des choses. On verra ça, c'est un peu plus tard dans l'Évangile. En tout cas, ce qui est important, c'est ce que Jésus nous dit. Les sarments, les choses qu'il faut enlever, ce sont ceux en lequel la parole de Dieu ne porte plus de fruits parce qu'il n'y croit pas, il ne croit pas à l'efficacité. Alors, ça me permet d'ouvrir un chapitre extrêmement important qui est le chapitre de la Lectio Divina. Si jamais vous lisez l'italien, je vous conseille très vivement un livre d'Amadeo, Cencini, C-E-N-C-I-N-I, qui s'appelle « La parole au rythme de la vie ».« La parabra al ritmo » je ne sais plus quoi. Si vous ne connaissez pas l'italien, ce qui est mon cas, il faut se débrouiller pour trouver le livre, le numériser, et puis le traduire, coup de deepling ou de je ne sais quoi. C'est tout à fait passionnant et précisément l'auteur évoque la question de la Lectio Divina en disant voilà, la Lectio Divina, ce n'est pas un truc en plus qu'il faudrait faire dans sa journée et checker. La Lectio Divina, c'est quelque chose qu'on découvre au réveil, dont on garde quelque chose, on ne comprend pas tout, elle va nous servir toute la journée, ça va être la clé de lecture de notre journée. On va se dire voilà, aujourd'hui, dans cette lecture va éclairer mes décisions. Je crois que la parole de Dieu va éclairer ma décision aujourd'hui. C'est des expériences assez bouleversantes à faire, soit dit en passant. Par exemple, aujourd'hui, prenez un mot qui vous a parlé. Je ne sais pas, ça pourrait être émondé, ça pourrait être purifié, ça pourrait être autre chose, hein, on va voir des diverses choses. Et vous dire, tiens, ben aujourd'hui, je vais être attentif à ce qui va se produire dans ce sens-là. Peut-être je vais être invité à renoncer à quelque chose. Dans mon cœur, je vais comprendre que cette habitude que j'ai de... je sais pas quoi faire, moi. Ben, elle n'est pas bonne, elle fait obstacle à Dieu dans mon cœur. Voilà. Tiens, je pourrais peut-être renoncer à ça, donc envisager ceci. Par exemple, vous voyez, bon. Donc, j'en reviens à ma... Et le soir, du coup, ben, vous relisez votre journée à la lumière de la parole. Donc, votre guide de la journée, c'est la lecture des jours, les lectures du jour, et non plus votre agenda, votre ressenti, les nouvelles de tel ou tel média, que sais-je. En français, ça s'appelle « Vivre de la parole de Dieu », c'est « Donner du fruit à la parole », c'est donc éviter absolument le coup de sécateur. Et je ne pense pas à la circoncision. Je pense plutôt à l'émondage dont parle l'Évangile. Donc Jésus nous dit, « Vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. » Et il ajoute, « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Qu'est-ce qui peut demeurer en nous? Jésus, c'est la parole. Donc on est purifié par la parole. Donc on est purifié par la présence de Jésus dans notre cœur, puisque sa parole, c'est lui. Or, la parole sort du Père, ce qui signifie que entendre la parole, c'est entendre ce que le Père dit. Car en effet, il est écrit plus bas, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et mes paroles, il a dit à un autre moment, je ne crois pas que ce soit ici, mes paroles ne sont pas de moi, mais de mon Père. Donc la parole qu'est Jésus, elle est prononcée par le Père. Si cette parole est en nous, ça veut dire que le Père la prononce en nous. Si le Père la prononce en nous, ça veut dire qu'il est en nous. Encore une fois, ce n'est pas un scoop, c'est depuis le baptême. Mais là, vous découvrez que la Trinité, elle est vraiment en vous, quoi. Et donc, vous n'avez pas à vous demander, ouais, la parole est dans les cieux, je ne sais pas où. Non, non, elle est dans ton cœur. Le Père a peut-être une barbe. Non, non, le Père, il est dans ton cœur puisqu'il prononce sa parole. Donc, le Père est à demeure. L'Esprit, le Fils prononce sa parole, il est la parole du Père et l'Esprit Saint nous la fait comprendre. Donc c'est quand même assez génial parce qu'on découvre là de façon encore plus évidente que nous sommes enfants de Dieu, quoi. Et c'est pas un concept. Je suis enfant de Dieu parce que je fais ce que mon Père me dit. Bah, évidemment, si vous dites ça à quelqu'un, il va vous regarder, t'as dit quoi là? Bah, je viens de te parler de la bonne nouvelle. L'Évangile. Alors évidemment, il faut que ce soit vrai, c'est-à-dire être attentif à cette parole, précisément, c'est pour ça qu'on la prend le matin, en se réveillant, qu'on regarde à midi en se disant, tiens, j'en suis où de l'Évangile d'aujourd'hui là? Vous prenez un cahier, vous écrivez un mot sur le, voilà, le 21 mai, ben, le mot de ma journée, ça va être, je ne sais pas quoi, la gloire du Père. Par exemple, voilà, comment je vais faire aujourd'hui la gloire de mon Père? En écoutant sa parole, donc en écoutant le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, un client, une personne, la personne à qui, chez qui je fais mes courses, j'en sais rien, je serai attentif à ce qui est dit pour pouvoir en profiter. Ou bien, s'il me vient une parole gentille, aimable, ou quelque chose, ou... Eh bien, je m'adresserai à cette personne en me disant « Tiens, ça vient peut-être du Saint-Esprit. » Et là, on fait produire de la parole. Donc, la gloire du Père, c'est les fruits de la parole. Le fruit de sa parole. Donc ce que Jésus dit en nous. qui demeure dans la parole, demeure en Jésus, puisque la parole et Jésus, c'est la même chose, et qui demeure en Jésus, c'est-à-dire, eh bien, la parole, c'est la parole du Père. Jésus est la parole du Père. Donc, je dis 4 fois la même chose, hein, pour ceux qu'on la comprenait un peu lente. La parole qui demeure est celle du Père. Voilà, donc ça peut être aussi, vous voyez, comme thème, comme mot que vous retenez, ça peut être l'unité. L'unité de la vigne, du vigneron, etc. Et, enfin, il y a tout un tas de choses que vous pouvez trouver là-dedans. Et encore une fois, hein, je vous recommande, si vous avez la capacité, ce livre de Cencini. Pour ma part, je suis en train de le lire dans une traduction française, donc que j'ai faite, ou faite faire plus exactement. C'est une tuerie ce bouquin, c'est absolument génial, quoi. Il est de 2010. Voilà, en tout cas, ça vous permet de porter précisément un fruit toute la journée, au moins d'essayer. Eh bien, essayons.